Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Raison gardée, l'émission proposée par les Libres Penseurs de Meurthe-et-Moselle, une association qui défend la laïcité, une association antimilitariste, une association qui milite pour le respect de toutes les libertés individuelles. Et c'est notamment une question qui associe religion et liberté que nous allons aborder aujourd'hui ensemble avec mes nombreux invités, une fois n'est pas coutume. Souvent c'est un duo que vous entendez dans cette émission. Aujourd'hui c'est un quatuor. Nous accueillons Mohamed. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Paul.
Bonjour.
Et Christophe.
Bonjour.
Bonjour. Alors pour expliquer un petit peu le choix du thème de notre émission, qui sera aussi le thème de l'émission suivante, Christophe, à l'occasion de la fête des associations, nous nous sommes croisés, nous avons discuté justement de la question de la religion par rapport à la construction de son identité, identité sexuelle, identité de genre aussi. Et nous nous sommes dit qu'il y avait là un beau sujet à traiter, qui n'est peut-être pas tellement traité, qui est justement le rapport de la religion, les liens qu'entretiennent les religions avec ces questions d'identité et de genre. Et je voulais vous demander tout de suite, Christophe, parce qu'on avait discuté du titre de l'émission, et vous m'avez proposé de donner pour titre à cette émission « Les vécus queer en religion, foi, émancipation et réconciliation ». Ce sera pour la question de la réconciliation, une question que nous interrogerons dans la deuxième émission. Mais peut-être peut-on rappeler ce que signifie queer pour nos auditeurs. Q-U-2-E-R.
Oui, alors queer, c'est un terme qu'on appelle parapluie. En fait, c'est un peu un synonyme de LGBT. Et ça permet d'embrasser d'un seul coup toutes les variations soit d'orientation sexuelle, soit de genre. Et c'est très inclusif comme terme.
Et LGBT, pour le rappeler aussi pour nos auditeurs, nos auditrices.
Alors, LGBT, souvent on met QIA+, derrière.
Oui.
C'est lesbien, gay, bisexuel, transsexuel. Et QIA+, alors queer, intersexe et asexuel, il me semble. Et le plus, en fait, représente toutes les autres variations qui sont personnelles. Parce qu'il y a beaucoup de mots.
D'accord. Et qu'il est parfois difficile de trouver le mot qui convient le mieux pour la situation personnelle de l'individu.
Oui. C'est une question d'inclusivité, oui.
Alors nous avons eu l'occasion d'échanger ensemble il y a de cela quelques mois. Et le Covid, je ne sais plus ce qu'il faut dire, a repoussé cette émission. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous laisser la parole justement pour échanger d'abord peut-être sur la place de la religion dans votre éducation, c'est-à-dire avant même que se pose la question de l'identité, du genre. Est-ce que chacun d'entre vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle a été la place prise par la religion dans votre éducation? Alors, je ne sais pas qui a envie de commencer.
Alors, Paul. Alors moi, c'est un peu spécial dans le sens où, déjà, je suis catholique. Enfin, j'ai été baptisée, mes parents sont catholiques, donc je pense que de naissance même, je suis catholique. Mais en fait, j'ai été baptisée. Je viens d'une longue fratrie de 10 enfants. Et ils ont tous fait le baptême, la communion, enfin tout le tralala. Sauf que pour les deux derniers, on a dit... Bon, on va les baptiser pour qu'ils soient protégés des démons, mais ils ne vont pas faire tout le tralala. Et c'était pour nous laisser le choix de ce qu'on voulait faire pour plus tard. Sauf que du coup, nous, on n'a rien fait parce que du coup, mon frère est très cartésien et moi, je suis... J'y crois, mais je suis plus agnostique, ce qu'on pourrait dire agnostique. Et donc, du coup, ça a été... Enfin, c'est une question qui est très présente dans ma famille. C'est-à-dire qu'on va à la messe même si j'ai pas été baptisée, enfin même si j'ai été baptisée mais j'ai pas fait la communion et tout ça et le catéchisme, mais ça reste quand même quelque chose de très prégnant dans ma famille parce que par exemple mon père il est pas catholique, il est adventiste, ou quelque chose qui est lié à l'adventiste. Oui. Et c'est quand même important pour ma mère qu'on soit, enfin qu'on choisisse notre religion par nous-mêmes.
D'accord, mais avec une religion qui est très très présente donc dans le cadre de votre famille, même si, donc, si je comprends bien, vous avez eu la possibilité de choisir peut-être davantage de suivre la formation, ce que vous avez appelé tout le tralala, c'est-à-dire l'enseignement, le catéchisme, oui. Etc. D'accord. Et vous, Mohamed ?
Pardon. Alors pour moi, c'est... je viens d'une famille religieuse. Pas très stricte, mais la religion était importante dans ma famille. Pour mon père, par exemple, il ne nous a jamais forcés, mais pour lui, il voulait qu'on aille avec lui aux mosquées, parce qu'on est trois garçons, et entre moi et le frère qui est directement avant moi, il y a 5 ans. Donc... il avait un peu perdu l'espoir que mon grand frère, il n'allait pas avec lui, l'autre frère n'est pas allé avec lui. Et moi, je me souviens qu'il y avait une époque dans ma vie que je voulais faire un truc pour lui. Donc oui, je suis allé plusieurs fois avec lui aux mosquées. Et la dernière fois, j'avais, je pense, 12, 14, je ne sais pas. Et je me souviens qu'à la porte, parce que pour mon père, c'était très important. Il faut être à l'heure au mosquée. Et j'avais du retard. Donc, il m'a dit, je vais partir, tu me suis. Et je suis allé à la porte. Il y avait quelqu'un qui connaissait mon père, qui m'a demandé si je suis son fils. Je lui dis oui. Il m'a dit, tu peux entrer, mais pour la prochaine fois, tu ne viens pas en short et débardeur. Alors que c'était l'été, j'avais 12 ans, donc c'était normal pour moi. Et là, je me souviens, à la porte, je dis « Non, en fait, je ne vais pas entrer. » Il m'a dit « Si, si, c'est pas grave cette fois, mais pour la prochaine fois, je dis non, en fait. » Et c'était la dernière fois où je suis allé au mosquée. Pour moi, c'était mort. Si quelqu'un veut me contrôler, comment je m'habille et tout ça, c'était fini. Mais je sais que, par exemple, pour mes parents, c'était important de faire Ramadan et tout ça. Ils prient toujours. Là, en France, c'est un peu difficile parce qu'ils sont vieux tous les deux. C'est un peu compliqué de faire Ramadan parce que ça finit à 21h peut-être. Donc ils ont arrêté, mais je me souviens quand j'étais en Syrie, c'était pour eux, c'était la cata si je dis je fais pas Ramadan aujourd'hui. Voilà.
D'accord. Donc il y avait un rapport très fort avec votre père qui vous motivait jusqu'à cette interdiction d'entrée, enfin cette faveur qui vous a été faite d'entrer éventuellement alors que la tenue n'était pas la bonne. Et là, il y a eu une réaction, quelque chose, une prise de conscience.
Oui, oui, pour moi, en fait, ça ne marche pas de me contrôler comme ça, surtout j'avais 12 ans, quoi. Pour moi, ce n'était pas le truc le plus grave. Je m'habillais tout le temps comme ça. Donc, s'il y avait un endroit où je ne peux pas aller parce que je suis habillé comme ça, c'était fini.
Un interdit qui n'est pas passé. Ouais. Merci. Et Christophe ?
Alors, moi, je suis d'une famille catholique aussi, de naissance, comme disait Paul. Mais alors, on était catholique, c'était très culturel, pas forcément très strict au sein de la famille. Mais par contre, on a fait un peu tous les jalons de la vie catholique, donc... En tant qu'enfant, je suis allé au catéchisme. Ensuite, j'ai fait ma première communion. Et je me souviens qu'on m'avait forcé à faire ma profession de foi. Alors que j'étais déjà plus d'accord. Je crois que ça suivait justement ma prise de conscience que cette religion, pour moi, enfin, je pense, rejette mon identité, certaines choses qu'elle n'accepte pas. Et on m'avait forcé à faire ma profession de foi. Et déjà, ça, c'était quand même assez significatif. Pourtant, j'avais vraiment fait une grosse résistance. Mais non, c'était comme ça. Il fallait aller plus loin.
Mais donc, quand on fait la profession de foi, on a 11 ans, 12 ans, si je ne me trompe pas.
Alors, la communion... Alors, il me semble que la communion, c'est 10-12 ans. Et la profession de foi, c'est...
Un peu plus tard.
C'est 16 ans, quelque chose comme ça. Je me trompe peut-être. Ouais, hein, mais...
Oui, j'aurais 13 ou 14 ans. Je crois qu'après, au-delà de 16 ans, c'est la confirmation. Ou... Mais ouais. C'est vrai que c'est un âge où on peut dire non, mais on n'a peut-être pas non plus toute la liberté vis-à-vis de ses parents pour dire non et avoir le droit de refuser. Oui. Les pressions parentales et familiales peuvent être encore très fortes.
Bien sûr. Et notamment, un des jalons du parcours, c'était de participer à des camps catholiques l'été, où on partait en pèlerinage itinérant sur les routes, avec un prêtre, on dormait dans des monastères, des choses comme ça. Et notamment, on en reparlera peut-être, mais du coup, au niveau de l'acceptation des orientations sexuelles, il y avait vraiment des gros problèmes dans ce cadre-là.
Alors, effectivement, avant que vous-même vous ayez une réflexion sur votre identité, votre orientation sexuelle, est-ce que vous aviez déjà entendu aborder ces sujets-là à travers les enseignements religieux que vous aviez pu suivre ou entendre ? Est-ce que c'était des thèmes que vous aviez déjà entendus avant même que la question se pose pour vous ?
Oui. En fait, moi j'étais un moment de ma vie très croyant et très pratiquant. C'était entre mes 12 et mes 15 ans. Et en fait, c'était extrêmement important pour moi, comme soutien, on va dire, c'est-à-dire la croyance. Et effectivement, à un certain moment, en lisant la Bible, puisque je lisais la Bible à un moment donné tous les soirs, je faisais mes prières. Je me suis rendu compte que apparemment je relevais de ce que la Bible nomme une abomination, et je me suis rendu compte en arrivant au dernier chapitre, l'Apocalypse, que apparemment j'étais voué à l'enfer. Et là, c'est le drame.
Oui, donc il y avait déjà quand même pour vous une réflexion sur cette question de l'identité. Et là, ces textes ont brutalement fait écho au questionnement que vous aviez, ou en tout cas à l'identité que vous commenciez à voir se définir. Et Paul, pour vous, est-ce que vous aviez entendu parler des questions d'orientation sexuelle, d'identité à travers les textes religieux dans l'enfance ?
Oui, mais par l'intermédiaire de mon père qui est très croyant. Enfin, mon père et ma mère étaient très croyants, mais mon père, c'était vraiment quelque chose de... La première fois que j'en ai entendu parler, c'était par l'intermédiaire de mon père, c'était durant les fameuses manifestations de 2012. Et c'était assez, comment dire... on sentait que c'était quelque chose qu'il fallait absolument pas aller dessus. Parce que quand j'ai essayé de sonder, à l'époque, j'avais pas conscience, mais je sentais qu'il y avait un truc à faire. Je sais pas, c'est comme une sorte d'intuition. Et quand j'ai essayé de sonder, essayé de lui poser des questions sur ce qu'il en pensait, juste pour savoir, il a commencé à me parler de Sodome et Gomorre et de ce genre de choses. Et c'était assez, effrayant dans le sens où, déjà, ça vient de ton père, et qu'en plus de ça, il te parle de ce genre de choses en te disant que tu vas mal finir. Enfin, c'était assez violent. Moi, toutes les relations jusqu'ici que j'avais eues avec la religion, moi, plus jeune, j'aimais beaucoup la mythologie, les contes et légendes, ce genre de choses. Et du coup, quand j'allais à la messe, ou quand quand j'accompagnais mes parents à la messe ou ma tante à la messe, quand il fallait lire la Bible ou quand il fallait les chants religieux, ce genre de choses, moi, je voyais plus ça comme une sorte de d'histoire que l'on raconte. Je voyais pas ça comme un truc sacré. Enfin, j'ai jamais eu ce rapport sacré à la religion. Je voyais plus ça comme une sorte d'histoire qu'on me raconte. D'un truc qui s'est passé, qui s'est pas passé, on ne sait pas, mais peut-être que ça s'est passé. Et donc là, comme mon père m'en a parlé, j'ai senti en moi qu'il y avait un truc, mais je ne savais pas encore quoi.
Oui, c'est-à-dire que la fiction, tout d'un coup, ces récits de fiction sont devenus un peu menaçants, inquiétants, quelque chose qui trouble, même si vous ne saviez pas très bien pour quelle raison.
Oui.
Et Mohamed, vous aviez aussi déjà entendu des choses qui vous avaient marqué avant même que la question se pose à vous de l'identité ?
Alors moi, dans le dans les textes religieux, je ne sais pas trop. Il y a des histoires, mais surtout, moi, c'était des personnes qui parlaient. Je me souviens, c'est un truc très, très afro, mais je vais parler de ça. Je me souviens qu'il y avait un danseur très connu en Syrie qui a été tué et brûlé par son ex parce qu'il était gay et son copain était très jaloux. Donc, il a tué, il a brûlé. Et je me souviens que pour mes parents, alors que moi je considère mes parents très humains, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais j'étais choqué que pour mes parents, c'était oui, normal. De toute façon, il sera brûlé dans l'enfer. Donc, c'est pas très grave. Peut-être il fallait, et c'était vraiment comme ça, peut-être il fallait pas le tuer, mais bon, il est mort, c'est pas très grave. Et pour moi, c'était un truc horrible d'entendre ses parents parler comme ça. Surtout que c'était le moment où je commençais à me poser des questions par rapport à ça. Donc voilà, c'était plutôt deux personnes. Et je me souviens aussi que, moi, comme j'ai dit, j'ai quitté la religion quand j'étais très jeune. Mais plus tard, j'étais avec un partenaire qui était religieux. Et il voulait qu'on prie ensemble et moi j'étais toujours gêné, surtout que je travaillais dans un bar, j'étais un barman, je buvais tout le temps. Donc pour moi c'était un peu gênant et je me souviens que cette personne m'a dit une phrase que déjà on pêche entre nous deux, donc ça serait peut-être bien de prier.
D'équilibrer avec oui. La prière en
et
quelque sorte.
Je suis resté avec cette personne pendant 5 mois je pense. Et le moment où je me suis rendu compte, c'était le moment où j'ai fait la fête. Jeudi, j'ai bu et tout. Et le lendemain, il fallait aller au mosquée. Et il fallait que je cache ça. Et c'était là où je me suis dit, mais en fait, je suis très hypocrite pour le moment. Je vais pas continuer ça. Et c'est là où je me suis dit, non, en fait, j'avais arrêté déjà. Là, je sens que je reviens. Et non, je vais arrêter et ça serait pour toujours. Et pour moi, c'était vraiment au point final. Et j'ai tout arrêté, même Ramadan. Parce qu'en Ramadan, c'était pour faire plaisir à mes parents et tout ça. J'ai tout arrêté parce que je trouvais que c'est comme être dans une relation toxique avec quelqu'un qui me dit « tu es mauvais, tu es mauvais tout le temps, tout le temps ». Je ne resterai pas avec cette personne, donc pourquoi je serais... Pourquoi je veux rester juste pour satisfaire quelqu'un? Et c'était c'était fini pour moi.
Mais donc ce ne sont pas les textes qui ont été évoqués devant vous qui ont fait résonance, mais c'est vraiment les réactions des personnes autour de vous, le discours qui était tenu. Et j'ai l'impression que le décalage entre ce que ces personnes sont et ce qu'elles sont capables de dire ou d'admettre au nom de la religion, je pense à vos parents qui sont, dites-vous, très, très humains, des gens très, très attentifs aux autres, sans doute qui ne veulent aucun mal à personne, mais qui là ont trouvé une sorte de raison acceptable de voir mourir aussi brutalement ce danseur. C'était une histoire nationalement connue. Enfin, je veux dire, c'est un danseur syrien
très connu.
Je ne sais
pas, mais en Syrie, il était très, très connu. Il était, je peux dire que le danseur le plus connu, parce qu'on n'avait pas beaucoup de danseurs à l'époque. Et il était un peu outé. Il n'a pas fait son coming out, mais dans les communautés comme ça, on fait le coming out de quelqu'un sans demander. Donc, il était assez connu et l'histoire était horrible. Et pour mes parents, c'était...
D'accord. Ils n'ont pas exprimé une sorte de d'objection ou d'inquiétude à voir ce genre de comportement dans leur pays.
Mais après, à part de la communauté queer, j'avais déjà un problème avec les... parce qu'en Syrie, à l'école, on est obligé d'étudier soit l'islam, soit selon chacun, selon sa relation, sa religion, pardon. Et je me souviens, une fois, je trouvais ça bizarre parce qu'en islam, par exemple, il ne faut pas boire, il ne faut pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Et je me souviens que j'ai lu un truc où on peut trouver tout ça quand on est au paradis. Et j'ai jamais compris pourquoi c'est interdit maintenant alors que je vais avoir tout ça. Surtout qu'il y a des groupes d'islam qui disent que pour chaque mec, il y aura 70 femmes vierge. Alors, je ne comprends pas comment ça marche avec 70 femmes. C'est trop.
Ça
et
fait du travail.
Je me souviens que le prof de religion, il était en train de parler et on a posé beaucoup de questions par rapport à ça parce que pour nous, c'était bizarre. Pourquoi c'est interdit maintenant et il n'y a aucun souci pour le paradis. Et à la fin, il a dit « Non, mais arrêtez de parler de ça parce que je vais baver. » Et pour moi, là, c'était... J'étais étonné que, voilà, c'est la personne qui doit m'éduquer par rapport à la religion. Il bave juste en parlant des vierges. Donc, il y avait vraiment des...
Oui, il y a des choses qui ne paraissaient pas très cohérentes et qui ont retenu votre attention, oui, effectivement. Vous parliez d'école, Paul et Christophe, dans le cadre scolaire. Vous aviez entendu, donc là, on est dans une France laïque, donc, mais peut-être étiez-vous dans des institutions religieuses, dans des écoles privées, confessionnelles. Est-ce que dans le cadre de l'école, vous aviez entendu des choses aussi sur la question de l'homosexualité, de l'identité? C'était plutôt dans le cadre familial, donc votre éducation familiale.
Bon, dans mon cas, ouais, c'était plus au niveau familial. Après, il y a bien sûr des petits mots, des petits, je dirais, des tics de langage qui sont installés dans la langue. Par exemple, c'est tout à fait normal de dire à quelqu'un « à demain si Dieu veut ». Alors qu'en France, si tu dis « à demain si Dieu veut », il y aura toujours quelqu'un qui va te répondre « bien sûr Dieu voudra ». Alors que chez moi, enfin, c'est tout à fait normal de dire ça. Mais sinon... Par rapport à... Enfin, j'ai toujours été dans des écoles publiques, donc du coup, j'ai pas eu de...
Il n'y a pas eu de discours particulier.
Non.
Et Christophe, vous étiez dans une institution, une école privée confessionnelle ou...
Non, c'était dans le public. Ouais.
Donc, ce n'était pas un lieu où le discours était prégnant au quotidien. Et alors, que s'est-il passé? Et ce sera, je pense, pour ce premier temps de notre échange sur le sujet, ma dernière question. Quand vraiment vous avez pris conscience de ce qu'allait être votre identité, à qui en avez-vous parlé autour de vous? Puisque manifestement, dans vos familles, la religion était quelque chose de très, très important. Est-ce que vous avez pu très concrètement parler aux gens? Est-ce que vous vous êtes senti de fait dans l'impossibilité peut-être de confier ce questionnement parce que vous sentiez déjà que la pensée religieuse pouvait être un obstacle à ce dialogue au sein de vos familles?
Alors, moi, je me souviens que j'en avais parlé en confession, du coup, dans ce camp d'été catholique organisé dans la région de Nancy. Et que, bah, bien sûr, la confession, c'est une étape normale hein, chez les catholiques, et je pense, peut-être pas les chrétiens, mais les catholiques en tout cas. Et ouais, je me souviens que j'en avais parlé, que... bon, le prêtre avait vraiment pris une mine très grave. Je sentais que c'était pas comme tous les autres, pas comme toutes les autres confessions que les autres avant moi avaient données. Et puis, ouais, d'un air très grave, il m'avait dit quelquefois ça passe, quelquefois ça ne passe pas. Faites un chapelet de Je vous salue Marie et allez en paix.
Oui.
Waouh. Voilà. Wow. Alors dans mon cas, la question de la religion, je ne suis pas posée tout de suite. C'était plus, alors j'ai d'abord parlé avec une association, etc. C'est par la suite, je me suis posé des questions parce que je voyais bien, enfin je me suis rappelé des discussions que j'ai eues avec mes parents. Et je savais très bien que si je leur en parlais, c'était compliqué, ça allait pas être très très bien reçu. Du coup, j'en ai parlé à un ami et je me suis rendu compte qu'il était athée. Du coup, ça m'a pas vraiment aidé parce que j'ai toujours ce truc où j'y crois encore un peu. Enfin, j'y crois quand même. Donc, du coup, quand lui me disait non, mais tu penses qu'il a que ça à faire, enfin, que de te punir ou je ne sais trop quoi, enfin, je ne savais pas trop. Du coup, ça m'a pas forcément aidé. C'est à force de. Comment dire? Enfin, c'est au fur et à mesure du temps, à force d'entendre des témoignages, à force d'entendre de voir des biens culturels sur ce sujet, que je me suis dit, Ben en fait, voilà, enfin, il n'y a pas de souci. Et au fur et à mesure, j'ai fini par me décomplexer sur le sujet. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué. Parce que du coup, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner, ni qui, enfin, à qui le dire. Après, par la suite, j'en ai parlé à ma famille. Enfin, pour eux, c'était juste en mode... C'est pas vrai, c'est un peu le scoop. Mais bien sûr, il ne faut surtout pas en parler aux parents parce que du coup, ça risque de les faire des émotions fortes, etc., etc. Donc du coup, comme ils sont très religieux...
Une sorte d'autocensure, alors, de dire je ne vais pas leur en parler pour ne pas les heurter, de peur de les heurter.
Exactement. Il y a un peu ce truc de « oui, non, mais tu fais ce que tu veux » ou « c'est cool, ok, d'accord ». Mais en fait, même quand ils disent c'est cool, c'est pas vraiment cool, ils disent plus ça parce qu'ils savent que c'est comme qu'on dit le racisme, c'est pas bien. C'est la même chose. L'homophobie, c'est pas bien. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils disent c'est cool, mais par la suite, par leur comportement, par la façon dont ils parlent, on se rend compte que c'est pas si cool que ça et qu'ils ont encore des choses à déconstruire.
Oui, on aura l'occasion, je pense, d'en parler dans notre prochaine émission, justement après de ce dialogue avec les familles. Et vous, Maître, je crois, en fait, vous n'avez rien dit pendant très très longtemps.
Moi, j'ai dit à personne. j'ai parlé avec un ami qui est religieux. Je peux dire qu'il a accepté à peu près parce que, si on peut dire, il s'en foutait un petit peu. Mais en même temps, il y avait le côté que fais attention, c'est pas très bien vu, ni dans la communauté, ni dans la religion. Et c'était triste pour moi parce que on était trois meilleurs amis et on avait l'impression que lui, il est de la communauté, mais il a peur parce qu'il est religieux. Parce que ses rapports avec, je parle pas des rapports sexuels, mais rapports amoureux. C'était avec des hommes. Il disait que c'est des amis, mais on voyait qu'il y avait un truc de plus, mais il n'osait pas parler.
Qui n'était pas.
Donc il y avait ça. Mais à part de ça, jusqu'à ce jour-là, j'ai jamais fait mon coming out. J'ai parlé avec les trois personnes le plus proches dans la famille, et il y a aucun souci parce que les trois sont athées, donc il y avait aucun souci.
Je vous remercie pour ce premier temps de votre témoignage, de ce que vous partagez avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt dans cette émission Raison Gardée pour prolonger cet échange. Et nous finissons avec quelques notes de musique choisies par Christophe. True Love, c'est bon, prendre mon meilleur accent, c'est pas gagné, du groupe H.
True love.